Bienvenue dans le podcast Féminisme Initial. Ce podcast est présenté en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes quatre étudiantes de Sciences Po Paris, Carla, Camille, Colline et Aurore. Nous sommes passionnées par les questions féministes et nous collaborons ce semestre avec le HCE pour la conception de ce podcast. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre, à la Cité Audacieuse. Merci à celui important de la lutte féministe associative de nous accueillir. Féminisme Initial a pour objectif de démocratiser des termes et concepts féministes pour tous les publics de 7 à 107 ans. Pendant une quinzaine de minutes, nous vous présenterons des mots-clés du vocabulaire de l'égalité et des droits des femmes et nous questionnerons le fond de ces notions avec des invités d'une grande diversité, qu'elles et ils soient élus, chercheuses et chercheurs, institutionnels, militantes ou militants, qui viendront nous apporter leur regard aiguisé sur ces questions. Aujourd'hui, on va vous parler de l'éducation à la vie sexuelle et affective, en présence de Charline Vermont et d'Hélène Bidard. L'expression « d'éducation à la vie sexuelle et affective » fut employée pour la première fois par le planning familial. Elle renvoie à l'idée que, pour être en capacité de faire des choix éclairés permettant de mieux vivre sa sexualité, il est nécessaire que chacun et chacune puisse avoir accès aux informations nécessaires pour aller au-delà des stéréotypes impliqués dans la construction des inégalités entre les sexes et les sexualités. C'est en 2001 que l'éducation sexuelle a été rendue obligatoire à l'école par la loi Aubry, qui a été réaffirmée en 2018 par les trois circulaires CHAPA proposant trois séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau, dès le plus jeune âge. Ces séances visent à aborder des sujets tels que les maladies et infections sexuellement transmissibles, mais également les différents moyens de contraception. Par-delà ces questions, il s'agit plus généralement de garantir le respect des consciences, du droit à l'intimité et à la vie privée de chacun, grâce à une éducation fondée sur des valeurs telles que la tolérance, le respect de soi et d'autrui. Projet ambitieux donc, mais qui n'a pas été mis en place uniformément au sein des établissements scolaires. Le planning familial déplore qu'un quart des établissements scolaires n'ont jamais mis en place de cours, principalement par manque de moyens et de contraintes pour qu'elles soient effectivement appliquées. Le problème sous-jacent d'une prise en main lacunaire de ces questions par l'école est que les élèves risquent de combler leur méconnaissance par d'autres moyens. Leurs proches, les séries, la télé, la pornographie, dont la véracité est nuancée. Certains contenus risquent en effet d'apporter aux jeunes un regard biaisé sur leur sexualité, mais aussi de celle d'autrui, allant à l'encontre des objectifs initialement prévus par la loi. Ainsi, selon les données publiées par le planning familial, les avancées effectuées jusqu'alors n'ont pas encore porté totalement leurs fruits. En témoignent certaines données, telles que le fait que 60% des lesbiennes déclarent avoir été victimes d'actes lesbophobes. 2 Français sur 3 estiment qu'un homme a plus de mal à contenir son désir sexuel qu'une femme. 83% des jeunes filles de 3e et 4e ne connaissent pas les fonctions du clitoris. L'âge médian auquel les enfants visionnent de la pornographie pour la première fois est 12 ans. Et le tout alors qu'à 17 ans, la moitié des jeunes ont déjà eu un rapport sexuel.
Merci beaucoup Hélène Bidard d'être avec nous. Alors, vous êtes donc une femme politique française, vous êtes membre du Parti communiste, vous êtes conseillère de Paris, plus exactement adjointe à la mairie de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et vous avez créé l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes.
Oui.
Vous avez également fait une campagne de la ville de Paris pour lutter contre le harcèlement de rue en 2016.
Exactement.
Vous avez créé le guide référentiel genre et espace public pour un environnement urbain égalitaire.
Et oui, avec 2 tomes maintenant.
Avec 2 tomes, félicitations. Et vous avez contribué au lancement de la Cité Audacieuse dans laquelle on enregistre ce podcast, donc le 5 mars 2020, Cité de l'égalité et des droits des femmes à Paris.
Oui.
Et en 2018, vous avez donc diffusé le Violentomètre, outil conçu par la mairie de Paris, l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et l'association En Avant Toutes pour permettre donc aux jeunes femmes de mesurer à travers des exemples de situations concrètes le degré de violence dans leur couple.
Exactement. Ouais.
En mars 2020, face à l'augmentation des violences conjugales liées au confinement, vous avez annoncé une série de mesures dont la libération de logement et d'hébergement pour faire décohabiter auteurs et victimes.
Oui, avec la Fondation des femmes aussi qui a fait la même chose en parallèle.
D'accord. Et donc le 8 mars 2021, tout récemment, vous avez lancé le Respectomètre, un nouvel outil pour sensibiliser les jeunes aux relations égalitaires dans l'espace public et numérique.
Oui.
Merci beaucoup d'être avec nous. En tant qu'adjointe à l'égalité femmes-hommes à la ville de Paris, quel est votre portefeuille, votre champ d'action, quelle est votre politique, votre volonté politique pour l'égalité? Quelle politique la ville de Paris a-t-elle développée sur les questions d'éducation à l'égalité notamment?
Alors, vous avez remarqué, oui, je suis adjointe à la maire de Paris sur l'égalité femmes-hommes depuis 2014. Et dans le premier mandat, c'était égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Et c'était évidemment très cohérent de lutter contre toutes les discriminations en parallèle de l'égalité femmes-hommes. Et puis là, en 2020, j'ai proposé à la maire de Paris, qui a bien sûr accepté, d'allier la politique égalité femmes-hommes avec la politique jeunesse et éducation populaire, en se disant qu'il y avait vraiment un travail à faire sur la prévention auprès des jeunes et sur l'éducation à l'égalité particulièrement auprès des jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai égalité femmes-hommes, jeunesse et éducation populaire. Sur l'égalité femmes-hommes, concrètement, c'est un budget d'1 220 000 euros pour la ville de Paris en propre, avec beaucoup de financement à des associations de terrain qui vont agir pour l'égalité dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour l'autonomie économique des femmes, par exemple. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va faire de manière transverse avec l'ensemble des délégations à la maire de Paris. Et ça, c'est très important parce que pour moi, c'est organiser une transition politique de toutes les politiques menées par la ville de Paris, qui soit ce que j'appelle une transition féministe de la ville. Donc c'est dans les différentes politiques de la ville, prendre en compte le genre, l'égalité femmes-hommes, pour avoir des politiques qui vont tendre vers l'égalité.
Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, à travers justement, vous l'avez évoqué, les dispositifs que vous avez mis en place, donc notamment le violentomètre et le respectomètre récemment. Donc on sent vraiment une volonté d'éducation de toute la population aux inégalités, donc entre les genres et notamment dans la vie quotidienne sexuelle et affective. Mmh. Alors quels ont été les effets escomptés de ces mesures? Quels ont été en fait les effets déjà visibles? Qu'est-ce que vous attendiez? Et comment est-ce qu'ils peuvent vraiment donner des clés de compréhension face à une situation inhabituelle?
D'abord, on voit quand on va promouvoir des outils ou ouvrir des espaces de libération de la parole pour les jeunes, ça marche très très fort. Le violentomètre, on l'a fait, vous l'avez dit, avec l'Observatoire de Seine-Saint-Denis contre les violences faites aux femmes en avant tout, et l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes, donc la ville de Paris. Et en fait, on nous l'a demandé partout. D'abord, on nous l'a demandé, c'était principalement fait pour les jeunes, puisqu'on avait pour but d'intervenir justement dans les collèges où les départements de Seine-Saint-Denis et de Paris peuvent avoir des prérogatives. Et donc, on voulait intervenir chez les jeunes qui sont très souvent complètement hors radar de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, on voulait juste expliquer ce qui était normal ou pas dans un couple. Quand on est pour la première fois dans un couple, qu'on est amoureux pour la première fois de sa vie, qu'on est en couple réellement, et qu'on ne se retrouve pas dans les politiques qui vont parler aux femmes mariées, avec enfants, etc. On voulait promouvoir cet outil sous forme de règles, donc plutôt pour parler à des gens qui sont encore dans le système éducatif, hein, donc faire appel à leur code. Et en fait, tout de suite, quand je l'ai diffusé auprès d'adultes, et je me suis rendu compte que plein d'adultes me disaient spontanément qu'ils étaient dans les cases oranges, qu'ils étaient déjà dans leur relation de couple, dans des relations d'emprise, dans des relations qui n'étaient pas égalitaires, où on va aller vérifier le contenu du téléphone portable de l'autre. Donc déjà, on s'est rendu compte que ça dépassait la question de la jeunesse. Ce manque d'éducation à l'égalité est très partagé dans la société. Et puis, on nous l'a demandé bien au-delà de Paris. On nous l'a demandé aussi dans beaucoup d'autres collectivités de France, des hôpitaux, des gendarmeries, des services publics un peu partout. Et puis, on nous l'a demandé aussi dans d'autres pays. Et ça, au début, on a travaillé, nous, sur les femmes étrangères aussi, et pour aider les femmes étrangères qui n'avaient pas accès aux Français à avoir accès à leurs droits. Donc on a traduit le violentomètre dans une dizaine de langues. C'est génial parce que on nous le demande tout autour de la planète, on nous le demande de pouvoir le traduire dans différentes langues. Donc c'est magnifique et en même temps ça montre que c'est un réel besoin et qu'il y a en fait un besoin criant de ce point de vue-là. Et donc il y a un très gros travail à faire parce que les gens, en fait, sont en manque de ça. Ils ont envie d'aller vers cette égalité dans le couple. Et je pense que ça fait écho aussi au fait que le mouvement MeToo a traversé l'ensemble de la planète et qu'il y a des recherches de solutions partout suite à cette libération de l'écoute, pas seulement une libération de la parole, mais une libération de l'écoute. Du coup, c'est très intéressant pour nous. Alors, on a décliné donc là avec le respectomètre plutôt sur les aspects dans l'espace public et sur le numérique, où on voit aussi beaucoup de violences sexistes, LGBT-phobes, sur le numérique aussi, de cyberharcèlement, de revenge porn. Enfin, ça peut être très divers, malheureusement. Et donc, on l'a décliné avec le respectomètre sur des revendications pour l'égalité. Et évidemment, sur la question de l'espace public aussi, ça fait écho au harcèlement de rue qui parle, qui a une problématique renouvelée depuis à peu près 2016. On a aussi un appel à projet Collège pour l'égalité, où la ville va financer des associations qui peuvent aller intervenir dans les collèges pour aider les professeurs qui ne se sentent pas forcément outillés à intervenir sur l'éducation à l'égalité. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la manif pour tous et les reculs qu'il y a pu avoir sur l'ABC du genre ont créé une situation très difficile, où les associations ont du mal à aller intervenir dans les collèges, où les portes de l'éducation nationale ne sont pas forcément ouvertes pour ça, par crainte qu'il y ait des scandales, des retraits des enfants des écoles. Donc on est dans une situation assez difficile, en fait, pour intervenir de ce point de vue-là, et on a besoin de faire comprendre cette nécessité d'éducation à l'égalité pour la jeunesse. D'autant plus que si on ne le fait pas, et là on ne le fait pas en l'occurrence, et pour parler peut-être d'un paradoxe qu'on voit chez les jeunes, moi je vois plein de jeunes hyper mobilisés autour de MeToo et c'est une grande joie. Mais d'un autre côté, cette génération, d'après la dernière étude de Muriel Salmona, la génération des 18-24, en fait il y a plus de jeunes hommes qui pensent que quand une femme qui dit non, ça veut dire oui. Chez les moins de 30 ans, ils sont 34% à être dans une logique de, donc quand une femme dit non, c'est pas forcément pour dire non, et donc d'être dans une logique de culture du viol, qui est en fait beaucoup plus forte chez les jeunes que dans le reste de la population. Donc c'est très paradoxal, parce qu'il y a des jeunes très mobilisés, et puis des jeunes qui sont en fait... élevés dans la culture du viol et qui ne voient pas de problème. Et donc, c'est assez inquiétant, en fait, ce paradoxe.
Et est-ce que vous avez justement eu des critiques de la part de parents d'élèves, notamment d'associations dans le cadre scolaire, et comment vous y répondez ?
J'en ai jamais eu. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'on a vu la levée de bouclier sur la BCD du genre. Et on voit que l'éducation nationale est encore très en retrait par rapport à ça. Comme s'il y avait un vrai traumatisme de la communauté éducative sur la BCD du genre. Et en fait, le violentomètre, je n'ai jamais vu de critique de la part de parents d'élèves et de la part de la communauté éducative. Donc c'est plutôt le contraire, j'ai plutôt vu plein de messages de parents qui étaient très heureux qu'on fasse cette éducation-là. Et je crois qu'en fait, si on arrive à lever les tabous auprès des parents, notamment sur le fait que leurs enfants dès 12 ans sont exposés à la pornographie et à une pornographie qui est ultra violente et qui relève de la barbarie et qui est tout sauf l'égalité. Si on arrive à lever ces tabous-là, qui sont pas faciles hein, quand on est parent, de discuter de cette exposition à la pornographie auprès de leurs enfants, du coup, les parents, il me semble, ne peuvent être que réceptifs au fait qu'on promeuve l'éducation à l'égalité, à la non-discrimination et au respect de son corps et du corps de l'autre. Mais vraiment, je n'ai jamais vu de critique de ce point de vue-là. C'est plutôt des demandes sans fin, en fait. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est d'être alimentés sur l'éducation à l'égalité. Donc, il faut foncer.
Merci énormément d'avoir été avec nous, Hélène Vidard. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Charline Vermont, bonjour. Vous êtes formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie. En 2019, vous avez lancé votre compte Instagram Orgasme et moi, qui réunit près de 610 000 abonnés. Depuis sa création, vous vous consacrez pleinement à votre communauté, à laquelle vous veillez à apporter une éducation sexuelle positive. Vous avez également participé à la conception de la célèbre série Sex Education et avez publié il y a quelques mois un livre Corps, amour et sexualité, sans question que vos enfants vont vous poser, aux éditions Albin Michel. Si vous vous considérez vous-même comme une geekette du fait de votre travail sur les réseaux sociaux, vous êtes également une actrice de terrain, en témoignent les nombreuses conférences que vous organisez en France, en Suisse ou encore en Belgique. Donc vous prenez une éducation sexuelle que vous voulez, selon vos mots, positive. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce à quoi cette idée renvoie ?
J'ai envie de dire, dans l'éducation positive, il y a une forme d'opposition à une éducation sexuelle que la plupart des personnes de ma génération, et peut-être également de votre génération, a reçue, c'est-à-dire avec un stigma finalement assez négatif autour de la sexualité, soit sous le sceau du tabou, de la honte, du silence, soit avec une approche qui est exclusivement orientée danger, orientée risque. Donc c'est une approche assez traditionnelle, attention aux IST, attention aux grossesses, attention aux violences sexuelles. Et effectivement, ces choses sont importantes. Et il est essentiel d'en parler également quand on fait de l'éducation complète à la sexualité, mais elle ne saurait se résumer à ça. Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de l'éducation à la sexualité. Et du coup, c'est recontextualiser en fait ce qu'est la sexualité dans une expérience humaine complète en termes de relations et de connexions affectives, amoureuses. Et du coup, pour moi, en tout cas pour les enfants, quand on parle d'éducation positive à la sexualité, du coup, c'est vraiment ce que j'écris dans le livre en intro, c'est offrir une éducation en offrant d'abord une écoute bienveillante pour pouvoir répondre aux questions des enfants et aborder ce sujet sans tabou, en les rassurant dans leurs expériences, leur exploration, leur curiosité. Et voilà, il y a vraiment un encouragement en fait à explorer ça comme une expérience profondément humaine, positive, et voilà, qui n'amène qu'à à l'épanouissement, en tout cas, chacun, chacune, à sa manière. Ouais.
Donc dans cet ouvrage dont vous parlez, vous aidez notamment les parents à aborder les questions d'éducation sexuelle avec leurs enfants. D'où vous est venue cette idée d'agir directement au sein des foyers familiaux et pour faciliter le dialogue autour de ces questions ?
Je pense quand même que j'ai été cueillie au début de mon expérience sur Instagram. C'est-à-dire, moi j'avais une expérience terrain, mais du coup plus dans les milieux associatifs LGBT depuis que j'ai 21 ans. Après, j'ai fait une expérience beaucoup plus personnelle, en tout cas avec une amie. D'abord, j'ai créé un blog sexo, on a créé des meet-up, donc des cercles de parole autour de la sexualité à Paris en 2016. Donc voilà, donc j'ai vraiment une expérience extrêmement à la fois numérique et terrain. Et quand, en 2019, j'ouvre mon compte, je pense que j'ai été surprise, en fait. J'ai été surprise... du vide, je sais pas comment dire ça, une espèce de sensation de vide intersidéral en fait dans l'éducation à la sexualité. L'impression que dès que j'aborde, en tout cas j'enfonce une porte que je pense ouverte, et en fait je déborde de questions en fait. Et du coup je documente, il y a tout un travail bibliographique qui est réalisé en amont de ce que je développe comme contenu sur le compte. Et du coup, moi, ça m'a obligée à beaucoup plus structurer déjà ce que j'offrais à ma communauté, d'une part. Et d'autre part, ça oblige quand même à se poser une question, enfin des questions. C'est comment ça se fait que ces adultes d'aujourd'hui, parce que dans l'immense majorité, mes followers ont plus de 18 ans, même s'il y a 2% de personnes mineures. En fait, comment c'est possible qu'à l'âge adulte, on se retrouve avec un tel niveau... j'allais dire d'ignorance. Et cette ignorance, elle est construite, en fait. De même qu'une connaissance, une compétence se construit, un vide, ça veut dire qu'il y a eu un vide parental. Dans la sphère familiale, il n'y a pas eu de transmission. Ça veut dire que le système éducatif, d'une manière ou d'une autre, a échoué également à mettre en place la transmission. On va en reparler. Ça veut dire également aussi que dans les expériences interpersonnelles, j'ai envie de dire, on est dans une société quand même très marquée par l'hétéro-patriarcat, et quand même il y a énormément de femmes et de personnes sexisées qui subissent leur sexualité et qui ont du mal, à reprendre le contrôle, à avoir déjà une sexualité consentie, c'est dramatique, mais c'est la réalité, avoir une sexualité où on puisse s'aimer soi-même aussi, on puisse se penser digne de recevoir du plaisir, de prendre du plaisir, de prendre la place, d'exprimer ses envies, d'exprimer ses limites. Il y a tout un empowerment en fait qui n'a jamais été offert aux personnes. En tout cas, on leur a jamais donné les moyens de le faire.
Pensez-vous que les pouvoirs publics ont échoué à garantir à toutes et à tous une éducation sexuelle et affective de qualité? Et comment est-ce que, parallèlement à ça, vous percevez du coup le développement de nouveaux moyens comme les vôtres sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à ces questions-là?
D'abord, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est-à-dire tout le monde se renvoie la balle. Les parents disent l'école a qu'à le faire, l'école ne le fait pas. Les parents disent est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? Pourquoi est-ce que les parents ne le font pas? Parce qu'a priori, on transmet bien des valeurs familiales, une histoire, des recettes, tout un... Et pourquoi pas, pourquoi pas le corpus minimal d'éducation à la sexualité? Et là, je pense que c'est compliqué. Il faut quand même redéfinir les lignes de chacun et chacune. Et malgré tout, mais à l'école, on apprend bien également à parler simplement et on considère, enfin, c'est aussi le rôle des parents. Donc, quelque part, l'école, pour moi, en tant que siège de l'égalité, enfin, vraiment, on a quand même une devise en France, hein, liberté, égalité, adelphité, on va dire. On est quand même sur un endroit où on a cette possibilité-là, et moi, j'y crois, dans l'école laïque et républicaine. On a la possibilité de permettre à plein de personnes qui n'ont pas reçu cet apport-là chez elles, de se remettre à niveau. En tout cas, on a la possibilité de leur apporter ça. Et c'est important que ça ait lieu. Voilà. Et c'est important que les parents laissent l'école le faire, parce que je pense qu'il y a des freins importants. Et les freins sont pas, ils sont à plusieurs niveaux. Ensuite, je suis pas experte du sujet, mais pour avoir quand même, pour être moi-même intervenue en établissement scolaire, je peux en témoigner. D'abord, on a une loi qui date de 2001 et qui dit qu'il y a 3 séances par année d'enseignement entre la primaire et la terminale, qui a été effectivement confirmée par la circulaire de 2018. Donc, on est sur un texte qui a déjà 20 ans. Donc, on pourrait imaginer que les adultes d'aujourd'hui, donc toutes les personnes majeures, en fait, ont bénéficié de, sur un cursus général, c'est 12 années, donc ça fait 36 séances. Voilà, ne serait-ce que sur collège-lycée, on est sur 21 séances obligatoires. La réalité, c'est évidemment le sondage Nous Toutes qui a été réalisé, et là on est sur 2,7 séances en moyenne sur les 21 prévues. Donc on nage, c'est dramatique. En fait, on nage par manque de moyens, et les manques de moyens, les assos qui sont sur le terrain, il faut les financer. Et aujourd'hui, soit on est en milieu rural, il n'y a pas d'assos agréés à proximité. En milieu urbain, il y a une concurrence entre les établissements scolaires, il y a quelques assos, et en fait, elles sont prises d'assos, les créneaux sont pleins, et on a du mal à les faire intervenir. Et ensuite, il y a la quantité, il y a la qualité également. Tous les intervenants, intervenantes ne sont pas orientés sexualité positive. Si on parle autant de sexualité, c'est que c'est vraiment aussi une expérience où on va revenir aux bases, à l'anatomie, à comprendre comment ça fonctionne. Mais derrière, pour dérouler toute une pelote, on va pouvoir parler effectivement des envies, des besoins de... d'identité de genre, d'orientation sexuelle, d'être vraiment d'être à soi et d'être aux autres. On est pour moi, ce qui est la base en fait des relations humaines interpersonnelles. Ça me semble en fait tellement basique, et ce que en fait, pour moi, je veux que ce soit une matière à part entière. En fait, il faudrait que les enfants puissent bénéficier de ça et très tôt, comme le font les pays scandinaves par exemple. Donc oui, il y a un échec aujourd'hui en France, mais c'est pas tant un échec, moi je veux voir ça comme un retard. Voilà, on a littéralement une génération de retard par rapport, je vais parler du Québec, je vais parler des pays nordiques, des Pays-Bas, de l'Allemagne où j'ai aussi étudié, en termes de communication non-violente et d'éducation non-violente, de lutte contre les violences éducatives ordinaires. Je pense qu'on a, ça va arriver. Mais voilà, on est un pays qui se transforme lentement. On est un pays où il y a des freins. Les parents ont peur. Du coup, je rassure les parents. J'ai dit, vous savez, en fait, alors vos enfants, ils ont une vie. Enfin, ce sont des êtres de chair et de sang. Donc, ce sont des personnes incarnées, d'une part. Ils ont un corps. Et déjà, apprendre à nommer son corps et son intimité, c'est la base. Enfin, avant d'être des objets de désir et de fantasme, c'est des parties du corps humain. Donc, ce que moi, je vais leur apprendre comme vocabulaire, vous allez en fac de médecine, c'est les mêmes mots. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment sur de l'anatomie, de la biologie, tout va bien. Et par ailleurs, c'est aussi en nommant l'intimité qu'on peut apprendre à la protéger. On est vraiment sur le cœur du cœur des violences pédocriminelles, vraiment de prévention des violences pédocriminelles. C'est également aussi en apprenant à protéger mais son intimité, mais au sens plus large, qu'on peut comprendre que, tu vois, de même que ton corps, c'est ton territoire et personne ne peut y avoir accès sans te demander ton consentement, eh ben, tu dois faire la même chose pour les autres. Ça, c'est réciproque, ça s'appelle le consentement. Et en fait, on pose des bases qui sont des bases qu'on va utiliser toute sa vie derrière. Toutes les études menées, et alors partout dans le monde, convergent vers plus on parle d'éducation à la sexualité avec son enfant et son ado, moins il y a d'IST, moins il y a de grossesse juvénile, donc non désirée, moins il y a d'agression sexuelle, que ce soit côté agresseur, agresseuse ou victime. Hein. En fait, et plus l'âge du premier rapport est tardif. Voilà.
Bah écoutez, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Merci à nos deux invités, Hélène Bidard et Charline Vermont, d'avoir accepté d'intervenir dans ce troisième épisode du podcast Féminisme Initial. Pour en apprendre davantage sur l'éducation à la vie sexuelle et affective, vous pouvez consulter le rapport « Égalité, stéréotypes, discrimination entre les femmes et les hommes, perception et vécu chez les jeunes générations en 2022 », disponible sur le site du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le prochain épisode de Féminisme Initial, nous parlerons du concept de diplomatie féministe en compagnie de nos deux invités, Camille Boutron et Jocelyne Adrien-Muctoul. Merci de nous avoir écoutés sur Féminisme Initial.